Les réponses sans tabou, l'émission qui ouvre le débat sur l'avenir de la communauté juive, présentée par Rafi Marciano sur Judaïque FM.
Merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent pour cette première émission de la nouvelle année. Et je profite pour vous souhaiter Gmar Khatima Tova à tous nos auditeurs et à toute la communauté juive. Aujourd'hui, nous allons parler de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. La Fondation pour la mémoire de la Shoah, c'est une grande institution. Et paradoxalement, elle est connue, bien sûr. Elle est reconnue, évidemment, mais aussi parfois très méconnue par le grand public et qui ne mesure pas toujours la place, le rôle de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, de son utilité, de ses actions et de ses réalisations. Et j'ai le plaisir de recevoir Philippe Alouche. Bonjour.
Bonjour, Rafi.
Vous êtes le directeur général de la Fondation du judaïsme de la mémoire pour la Shoah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons parler de cette institution, la mieux la faire connaître aux auditeurs, donner un peu par des exemples de ce que vous réalisez. Alors, nous allons essayer, dans le cadre de cette première émission, pour d'abord vous dire, c'est un plaisir de parler de la Fondation parce que les cadres communautaires savent. Mais rappelez aux auditeurs l'institution de la Fondation de la mémoire de la Shoah, c'est une institution française reconnue d'utilité publique. La Fondation est née en 2000 dans le cadre de la reconnaissance des responsabilités de la France dans la Shoah. Sa dotation provient de la restitution par l'État et les institutions financières concernées des fonds en déshérence issus de la spoliation des Juifs de France. Avec les produits financiers de cette dotation, elle subventionne le mémorial de la Shoah de Paris et de Drancy, les projets culturels, elle aide aux différentes des écoles dans leur cadre de travaux immobiliers et promouvoir le dialogue interculturel. Alors Philippe Alouche, on va rentrer dans les détails. Dites-nous aujourd'hui la place et le rôle de la Fondation de la mémoire pour la Shoah.
Écoutez, cher Rafi, vous nous avez très bien défini. On est effectivement une fondation reconnue d'utilité publique et on est au confluent, je dirais, de la société civile, du monde juif et des pouvoirs publics. On est au milieu de ces trois ensembles importants, avec évidemment, compte tenu de notre histoire et de l'origine de nos fonds, un lien très fort avec le monde juif. Notre action, vous l'avez dit, c'est d'abord de soutenir le mémorial de la Shoah, qui est quand même, pour ceux qui l'ont connu avant 2005, c'est plus le même mémorial de la Shoah que l'ancien CDJC, qui faisait un travail tout à fait remarquable, mais qui n'avait pas les moyens d'accueillir des scolaires et d'accueillir du public comme il le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le mémorial de la Shoah accueille plus de 280 000 personnes par an. Donc c'est quand même considérable, dont un nombre important de scolaires et de professeurs. Ça, c'est la première action. Et la deuxième action, cher Rafi, vous l'avez dit, c'est le financement de projets dans différents domaines dont on va parler, mais on finance à peu près 300 à 400 projets par an. On cofinance d'ailleurs parce qu'on ne finance jamais tout seul et on en est maintenant à plus de 4 700 projets soutenus.
Et vous financez parfois, à travers le fonds Garda, l'immobilier des écoles, c'est-à-dire la rénovation des écoles.
C'est ça, les gros travaux de rénovation. Et on aide, je tiens à le dire, tout type d'école. Il faut simplement que ce soit des écoles sous contrat avec l'État. Hein, ça, c'est notre règle, j'allais dire, première. Mais ça va du groupe Bet Rivka, de la mouvance Lubavitch.
Toute tendance confondue.
Voilà, exactement. À l'école juive moderne, à Lucien de Hir, Shammai Monid, toute tendance confondue.
Est-ce que vous direz aux auditeurs qu'en réalité, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, c'est l'espace privilégié de rencontre de tous les courants et de toutes les sensibilités de la vie juive, de manière à aider tous ces courants de la vie juive?
Alors, cher Rafi, c'est exactement ça. C'est effectivement parler et permettre à tous les moyens, à tous les niveaux et les facettes du judaïsme français de s'exprimer. Mais je dirais, c'est même au-delà. Et ça, c'est très important. Nous ne sommes pas juridiquement une institution juive. Je dis tous les liens forts que nous avons. Et notre mission première, je ne l'oublie pas, c'est de s'adresser au monde, à la société française en général. Le sujet, qui est quand même notre sujet majeur de la mémoire de la Shoah, ne concerne pas de prime abord les juifs. Il concerne d'abord le monde non juif, les écoles du secteur public, du secteur privé, de toute obédience, hein, qu'il soit catholique ou laïque.
C'est pour ça que vous financez des voyages pédagogiques.
Exactement.
Pour la mémoire à Auschwitz.
Voilà, une centaine de voyages par an. On fait partir plus de 5000 élèves et professeurs par an grâce au financement de la Fondation, au cofinancement encore une fois, parce que ce sont des écoles qui font l'effort de trouver des financements pour mener ce projet. Et je dois dire qu'on n'a jamais eu autant de demandes. Ça, c'est très positif de le savoir. Les professeurs du secteur public sont de plus en plus intéressés par la mémoire de la Shoah. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, Rafi, c'est vrai, et on peut s'inspirer de ce que faisait et ce que fait toujours cette grande institution qui avant s'appelait le Centre communautaire de Paris et qui maintenant s'appelle l'ÉCUJE, de dire nous nous adressons à tous les types de juifs. Il n'y a pas d'exclusif contre tel ou tel. Et pourquoi on fait ça? C'est simple, je vais le dire sans dramatiser, mais il faut toujours avoir en tête que pour les nazis, il n'y avait pas différents types de juifs. Ils ont malheureusement massacré aussi bien les juifs laïcs que les juifs orthodoxes. Donc on a vraiment ça, et Simone Veil et David de Rothschild, qui sont nos deux présidents successifs, ont bien ça en tête, de dire nous sommes là au service de la société française, mais aussi au service de tous les types de judaïsme.
C'est d'ailleurs dans les statuts de la Fondation. Et l'idée, c'est que vous financez des projets culturels. Comment peut-on être éligible à un dossier? Bon, vous allez me dire, vous allez sur le site, vous allez remplir. Mais c'est parfois très compliqué. C'est le parcours du combattant. Est-ce que vous avez conscience? Est-ce qu'on vous le dit d'abord?
Oui, on nous le dit, mais on entend effectivement les critiques. On est sûrement perfectible. D'abord, un grand principe, c'est qu'on aide les associations, les institutions. On n'aide pas ce qu'on appelle les personnes physiques. Si vous, Rafi, vous personnellement, vous venez nous voir, on vous dira non, revenez avec une association. C'est justement pour montrer que tout ça est dans un cadre structuré. Ça, c'est la première chose. Alors, c'est vrai qu'on est un peu exigeant. On essaie de ne pas l'être trop, mais on l'est un peu. Mais encore une fois, je ne veux pas dramatiser, c'est aussi lié à l'origine de nos fonds. On gère quand même fondamentalement, vous l'avez dit très justement, l'argent des Juifs assassinés et spoliés. Donc ça nous oblige, j'allais dire, à une certaine responsabilité et à faire en sorte, et grâce au ciel et grâce au travail qui a été accompli au sein de la Fondation, on n'a pas eu de sinistre, on n'a pas eu, heureusement, de malversation, de détournement, parce qu'on est quand même très rigoureux et qu'on demande, on a tendance peut-être à demander un peu plus de pièces justificatives que ne le ferait une fondation lambda.
Alors donc, vous soutenez la culture, le développement, les anciens déportés. Comment ça se traduit pour les anciens déportés? C'est une aide que vous apportez à ces familles ou...
Alors, sur les anciens déportés et les anciens enfants cachés, parce que en matière médico-sociale, le plus gros de notre public, c'est normal, il y a malheureusement de moins en moins de déportés, le plus gros de notre public en matière sociale, ce sont les anciens enfants cachés qui aujourd'hui arrivent à des âges 80, 85, au-delà, où malheureusement, on commence
on
à rentrer...
On peut rappeler pour les auditeurs ce que c'est que les enfants cachés, peut-être Philippe Alouche.
Alors, les enfants cachés, c'est ces enfants qui étaient très jeunes au début des années 40, au moment de l'occupation, qui n'ont pas connu la déportation, qui ont réussi à être cachés soit à Paris, soit dans des couvents quelquefois.
Dans des fermes.
Dans des fermes, exactement.
C'est des familles dans la campagne, de manière à échapper à la rafle pour aller... Donc c'était ces enfants-là, aujourd'hui...
Qui sont le gros de notre public en matière sociale. Et donc, nous ne les aidons pas directement, mais nous aidons des grandes institutions sociales, qui sont d'ailleurs pour la plupart au sein de la communauté juive, le Kazib Kojazor, l'OSE, la DIAM, tout un tas d'institutions, le Fonds social juif unifié au travers du service
passerelle.
Vous les
aidez à travers des institutions?
Exactement.
Pas simplement personnellement, c'est-à-dire vous n'avez pas un fichier d'enfants cachés?
Non.
C'est à travers des institutions qui viennent vous demander de l'aide pour des enfants cachés.
Oui, et ça me permet d'attirer votre attention et l'attention de nos auditeurs sur une de nos grandes règles de fonctionnement, à savoir que nous sommes une institution mécène. Nous ne faisons pas nous-mêmes, nous aidons les autres à faire. Ça, c'est très important. On considère qu'il y a deux métiers, quand on est une institution, deux métiers quand même assez différents. Soit c'est de faire des projets, soit c'est de financer des projets. Et nous avons choisi depuis le début de financer des projets.
Mais vous n'êtes jamais à l'initiative, à la conception d'un projet?
Très rarement.
Très rarement. C'est-à-dire, par exemple, les livres...
Alors, on a une collection qui s'appelle « Témoignages de la Shoah ». avec les éditeurs qui s'appellent, les éditions qui s'appellent Le Manuscrit, où là, on édite des témoignages qui n'ont pas trouvé d'éditeur sur le marché classique. Et donc, pour que ces témoignages ne restent pas lettre morte, si j'ose dire, nous éditons nous-mêmes, avec Le Manuscrit, ces livres. Mais ça, c'est l'exception. Sinon, si quelqu'un vient nous voir avec un projet de livre, c'est l'éditeur qui viendra nous voir. C'est aussi bien un petit éditeur que Gallimard.
C'est pas l'écrivain. C'est pas l'auteur.
Non, c'est pas l'auteur.
Alors, vous êtes aussi soumis, dans le conseil d'administration de la Fondation, aussi à une participation de l'État.
Oui, je vous le disais. On a trois types d'administrateurs. C'est les trois groupes que je citais tout à l'heure. On a des représentants de l'État, on a les présidents des principales institutions juives et on a des membres de la société civile. Et c'est ce mélange qui fait la particularité du fonctionnement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Alors, comment le poids de l'État, est-ce qu'ils ont vraiment une vision de ce qu'il faut faire dans, est-ce qu'ils comprennent comment fonctionnent les institutions juives? Parce que, est-ce que vous leur expliquez que telle institution, elle fait un travail positif, reconnu, etc. Ils comprennent
Tout à fait. Et c'est vrai que ça a un rôle pédagogique. Vous avez raison d'insister là-dessus, Rafi. Ça a un rôle pédagogique pour les représentants de l'État de mieux connaître le tissu social, le tissu associatif, qui est très important. Comme vous le savez, on a la chance d'avoir un monde juif très créatif. Donc, c'est important pour eux d'avoir, au travers de la FMS, une lecture de ce monde associatif.
Alors, si vous voulez bien, après une page en couleur, on va rentrer dans les bâtiments de la Fondation pour savoir comment travaillent vos équipes. Et vous allez nous donner des informations, qui est qui, et comment on peut s'adresser à la Fondation, et comment devient-on éligible, après une page en couleur.